Bon, en dollars, bon, je ne sais pas comment faire la division, je ne sais pas si c'est 500 francs. Si le dollar tourne autour de 500 francs CFA, voilà, vous allez diviser. Bon, je crois, je vais peut-être faire rapidement 200 divisé par 500. Ça tourne autour de peut-être, bon, je ne sais pas, 400 dollars.
Et on a beaucoup, ouais, on a beaucoup de témoignages, hein, même d'instituteurs, hein, qui ne gagnent pas plus de 120, 130 dollars, hein, ce qui en effet très faible. Et nous avons justement dans les...
Je parle de 400 dollars.
Et nous avons dans les témoignages notamment... Alphonse Mbouaki qui dit d'habitude à Kinshasa, à l'approche de la rentrée, les marchés sont bondés de monde, mais cette année ce n'était pas le cas parce que les parents sont dépourvus de moyens. Alors Alphonse, justement, nous l'avons au téléphone, il va témoigner, et ça c'est une question récurrente, vraiment, les moyens, toutes ces fournitures scolaires qu'il faut acheter à l'approche de la rentrée. Alphonse, comment allez-vous?
Je vais bien, madame. Vous savez que madame, à Kinshasa, en mer de Congo en général, le taux de chômage est élevé. Donc les parents ne travaillent pas. Alors, l'État qui devait prendre la charge de l'éducation en a démissionné. Au point que le peu de parents qui travaillent sont ceux qui prennent en charge l'éducation de leurs enfants. Et cela comme conséquence, y a des écoles privées qui se sont amplifiées, et comme ces écoles privées ne sont pas contrôlées totalement par l'État, ce sont eux qui fixent le montant de Minerval. Alors, quand ils fixent le montant des frais scolaires, ils sont trop exigeants. Par exemple, moi, je suis parent, j'ai trois enfants, j'ai payé la première tranche de 60% du montant annuel. Moi, j'ai payé 120 dollars sur 200 que je dois payer à l'an. C'est 200 que je dois payer là.
Et c'est énorme.
Alors,
oui.
Beaucoup de parents n'en ont pas. Donc, c'est l'État qui devrait être le promoteur primordial de l'éducation, mais il a démissionné. Allez, les marchands, les profiteurs ont pris la place et ils font leur commerce.
Merci beaucoup Alphonse. Je reviens vers Sawadogo Sayouba, instituteur au Burkina Faso. Et la question que je vous poserai sera la suivante. Justement, les fournitures scolaires, notamment dans votre pays, est-ce que c'est à la charge des parents? Est-ce que les parents doivent payer pour ça? Ou est-ce que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui s'en charge, notamment dans les écoles publiques?
Bon, pour le moment, au niveau du primaire, en tout cas, le ministère fait un effort pour doter les élèves de fournitures. Voilà, pour le moment, Burkina Faso, bon, nous n'avons pas un problème de fournitures comme ça. Bon, souvent, c'est un complément, deux ou trois cahiers pour les élèves. Sinon, l'État fait quand même des efforts pour doter les élèves de fournitures. Surtout en livres, bon, je ne pense pas, au niveau du Burkina Faso, on n'achète plus de livres au primaire. Les livres sont donnés par l'État. Maintenant, au niveau des cahiers, souvent, il y a certains compléments, d'un ou deux cahiers, qu'on demande aux parents de compléter. Sinon, dans la majorité des cas, bon, les élèves ont quand même les fournitures de la part de l'État.
Nous avons un autre auditeur en ligne, Ibrahim. Ibrahim, oui, comment allez-vous?
Oui, alors bonsoir à tous les auditeurs de la Voix d'Amérique.
Merci.
Ok, moi je voudrais rappeler que le salaire des enseignants est trop bas dans mon pays. Et surtout nous qui exerçons le métier dans les écoles primaires. Et comment se fait-il que durant un mois trop chargé et fatigant, on n'arrive pas à toucher presque 100 euros? Et ce qui fait que c'est très, 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 très difficile de bien dispenser normalement les cours avec toutes les charges des parents aussi. Bon, Un enseignant guinéen doit se lancer dans beaucoup d'activités pour joindre les deux bouts à la fois. Surtout ceux qui ont une famille élargie, comme moi par exemple. Ce qui est pire encore que tout cela, nous qui enseignons dans les écoles privées, les 3 mois de vacances ne sont pas payés et ce n'est pas du tout facile pour s'en sortir. Ce qui fait qu'après les vacances, on a les dettes par-ci, par-là. Vraiment, je voudrais rappeler que l'enseignant guinéen souffre. Il faudrait que l'État arrive à bien vérifier cela et trouver aussi des solutions. Et c'est ce que j'avais à dire là-dessus.
Et donc, vous êtes enseignant en Guinée?
Oui, oui, oui.
Donc, vous êtes instituteur, vous enseignez une matière en particulier?
Oui, je donne des cours de français en école primaire, les enfants.
Donc, en école...
C'est une école privée, oui, oui.
Une école privée.
Oui.
Et est-ce que vous avez remarqué une différence entre le salaire des enseignants en école privée et en école publique en Guinée?
Oui, bon, il y a une différence parce que, bon, le président qui est actuellement en Guinée, c'est un professeur, donc il a passé par l'enseignement, donc il connaît les difficultés qui se trouvent dans ce métier. Bon, par rapport à cela, la différence est que bon, l'État quand même a pris les enseignants qui donnent des cours sur le plan public. Bon, eux sont un peu rémunérés par rapport à ceux qui donnent des cours dans les écoles privées, par exemple. C'est ça, il y a la différence entre les deux.
J'ai pas bien compris. En école publique, on est mieux ou moins bien rémunéré d'une manière générale?
Oui, bon, la différence est que dans les écoles publiques, là-bas, c'est bien rémunéré par rapport à ceux qui donnent des cours dans les écoles privées. Surtout, ce que moi je connais bien, c'est les écoles primaires, parce que ceux qui donnent des cours dans les collèges ou lycées ou bien dans les universités, bon, j'ai pas assez d'informations là-dessus. Mais et puis, ce qui est encore difficile, nous qui donnons des cours dans les écoles privées, les 3 mois de vacances, on n'a pas de salaire, donc il faut se débrouiller ailleurs pour bien nourrir la famille. Donc c'est les difficultés qui se trouvent souvent.
Vous êtes instituteur et vous avez besoin en été de trouver un autre job en quelque sorte, c'est ça hein?
Oui. Il faut passer par beaucoup de méthodes pour avoir quelque chose, pour remplir bon, le vide qui se trouve. Quoi. Sinon, le salaire qu'on prend par mois, c'est trop petit par rapport aux problèmes qu'on trouve dans la vie.
On a eu plusieurs témoignages comme celui-ci hein, sur le Facebook de VOA Afrique, hein, disant qu'en effet, les enseignants étaient obligés de se trouver des autres jobs en plus de leur travail dans l'enseignement. Écoutez une émission interactive sur VOA Afrique avec vous, Nathalie Barge. Alors nous avons un autre invité en ligne pour parler de ces questions scolaires de rentrée, tous ces problèmes que l'on peut rencontrer sur le continent quand on veut éduquer nos enfants, les envoyer à l'école. Nous avons donc en ligne Monsieur Batili. Allô, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Comment allez-vous?
Je vais bien.
Où êtes-vous?
Je suis à Bamako.
À Bamako. Alors, qu'auriez-vous à dire sur cette question à Bamako?
Bon, la rentrée scolaire, c'est pour bientôt le 1er octobre. Mais l'école malienne va vers la dérive, je vous dis. Depuis 1992, depuis qu'un enseignant est devenu président de la République au Mali, à la personne de Alpha Omar Konaré, et l'école est foutue au Mali. Une école et un village, c'est commencé par ça. Après, on est venu à la nouvelle école fondamentale, NEF. Bon, vous voyez, les langues nationales sont étudiées, mais c'est trop mal fait. Après, le curriculum, c'est les mêmes langues nationales. Et hormis tout ça, vous voyez, une classe à 120 élèves, 150 élèves, avec un seul instituteur qui est là, devant, qui n'a même pas vraiment souvent 100 euros par mois. Mais fort heureusement, au temps d'Amadou Toumandoué, les enseignants ont été bien rémunérés. Ils trouvent plus de 100, souvent même 200 euros. Et pas euros, excusez, dollars.
Mais,
bon, vous voyez maintenant, oui.
Mais donc vous êtes enseignant?
Non, moi je suis agronome.
D'accord. Et vous avez des liens avec des enseignants, vous connaissez bien le problème, vous avez constaté que vraiment c'est...
J'ai des, j'ai des amis instituteurs qu'on cause très réellement. Vous voyez, madame, à l'université du Mali, et vous voyez les enseignants qui demandent de l'argent pour que les étudiants puissent aller de l'avant. Même si tu n'étudies pas à l'université ici, souvent... Et après l'année scolaire, après les examens, tu peux débourser quelque chose pour aller de l'avant. Est-ce que ça, c'est des études? Après, il y a des enseignants qui n'ont même pas de niveau, ils n'ont même pas de diplôme. Ils sont des récalés du baccalauréat qu'on recrute pour donner des cours. Souvent, si un enseignant te parle même français au Mali, tu as honte. Parce que ce qu'il dit là, même un bon élève. Heureusement, pour nous, quelque part, ça va mieux, parce qu'avec les écoles qu'on appelle les écoles privées, ça va, et c'est bien structuré. Mais est-ce que le Malien lambda a la possibilité d'inscrire son enfant aux écoles privées? C'est pas possible. Si vous voyez le seuil de pauvreté au Mali, c'est plus de 60%, sinon 70% de ceux qui n'ont pas un dollar par jour à manger et à se soigner dans les hôpitaux. Donc, vous voyez, il y a trop de problèmes, il faut une restructuration correcte de l'enseignement de l'école malienne, sinon donc, ça ne va pas du tout, vraiment pas du tout. Depuis 91, tout est foutu.
Donc en conclusion, hein, vous avez l'air de dire finalement que l'école publique d'une manière générale baisse en niveau par rapport à tous ces problèmes de salaire, de formation, etc. Et que en fait, on ouvre, il se crée ici et là des écoles privées qui elles sont payantes, voire même peut-être très chères. Et on comprend bien effectivement que en Afrique, d'une manière générale, voire au Mali, tout le monde ne peut pas payer ses écoles pour ses enfants. D'autant plus que dans tous les témoignages que nous avons sur le Facebook de VO Afrique, la plupart pointent du doigt simplement les frais d'inscription, l'achat des fournitures, etc. Donc les parents ne parviennent même pas à acheter trois livres en quelque sorte, c'est ça.
C'est vrai. Vous voyez, bon, heureusement à l'université du Mali, je ne sais pas par quel miracle ils ont fait, l'inscription à l'université du Mali, et inscription, ça dépasse même pas, c'est 6 000 francs. Quand vous voyez, ça fait à peu près 10 dollars à l'université, un peu plus de 10 dollars, 11 dollars quand vous prenez. Mais dans les écoles privées et supérieures, vous trouvez, et par an, on paye plus d'un million. 1 million de francs CFA, ça fait à peu près, vous voyez, 2 000 euros, je crois, et dollars par exemple. Si vous voyez ça au Mali, la pauvreté est galopante. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'activité génératrice de revenus. Les moyens sont limités. Le pauvre paysan ne peut pas donner. Il faut prendre les écoles primaires privées qui sont les meilleures. Hein, je dis, je ne dis pas que tout est mauvais, mais les meilleures, vous voyez, c'est à peu près dans les 100 000 francs CFA. Et si vous voyez, ça fait 200 euros.
Merci.
200 dollars, c'est pas possible, vraiment.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous avons René Mwenze en ligne. Allô, René ?
Allô ?
Vous m'entendez ?
Bonsoir, madame.
Comment allez-vous ?
Je vais bien.
Dans quel pays êtes-vous ?
Je suis en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi.
À Lubumbashi. On vous écoute, donc oui. Qu'auriez-vous à dire sur cette question-là?
Sur la question, je voulais dire ceci. La rentrée, c'était hier, mais la plupart des écoles n'ont pas enregistré bon nombre d'enfants qui sont arrivés à l'école, puisque leurs parents se retrouvent. La plupart des parents sont des chômeurs et d'autres n'ont pas de moyens pour faire inscrire leurs enfants à l'école. Par exemple, moi, j'ai amené mes enfants dans une école privée parce que l'école publique, c'est très loin de chez moi. Mais là où j'ai amené mes enfants, je paye 30 dollars par enfant, par inscription. Donc, il fallait payer 30 dollars pour réinscription et puis 30 dollars pour le mois de septembre. Donc, comme j'ai quatre enfants, pour la réinscription, je devais débourser 160 dollars et 120 dollars plus 120 dollars encore. Et puis, les fournitures scolaires aussi coûtent cher. Ce qui fait que beaucoup de parents qui n'ont pas de moyens ne peuvent pas réussir. Ils gardent leurs enfants à l'école. D'où, si nous voulons comparer ceux qui vont à l'école et ceux qui restent à la maison, donc la croissance et l'alphabétisation commencent à croître.
Mais en RDC, l'éducation primaire, secondaire, n'est-elle pas censée être gratuite? Non, c'est payant tout ça?
C'est payant, ce n'est pas gratuit. Mmh. Officiellement, on dit que c'est gratuit, mais quand vous arrivez à l'école, on vous demande... La région, ils ont des termes qu'ils sont en train d'utiliser, c'est-à-dire pour la réinscription, les frais d'assistance, frais d'appui technique, tout ça. C'est en quelque sorte des termes qu'on utilise pour faire croire que c'est gratuit, mais on paye quand même.
Et c'est vous-même, hein, René Moinzé, qui dites que les fonctionnaires de l'État ont des difficultés à scolariser leurs enfants. Parce que oui, il faut préciser que quand on est professeur instituteur, on a aussi des enfants. Et là, vous en profitez pour dire que et même les instituteurs ont du mal à scolariser leurs propres enfants. Nous avons Emma Digny en ligne. Emma.
Oui, bonsoir, Emma Digny depuis Brazzaville. Bonsoir.
Elvard Digny. Très bien. Comment allez-vous?
Ça va.
Alors à Brazzaville, la question scolaire, comment ça se passe?
Ah voilà encore un casse-tête qui arrive à chaque début d'année scolaire où les parents sont confrontés à cette cette énorme difficulté qu'ils n'arrivent pas à faire face. Bon, il faut avouer qu'à Brazzaville, l'école publique est gratuite, les fournitures scolaires. Nos dirigeants gouvernement ont essayé de les fournir gratuitement. Donc, je veux dire, l'accès à les fournitures de kits scolaires sont gratuites. Mais hélas, quand vous allez sur place, ce n'est pas le cas, comme venait de dire mon prédécesseur. C'est vraiment pénible. Moi, je vais vous prendre mon cas. Je suis fonctionnaire d'État. Je suis quatre enfants qui vont à l'école. Et je vous jure, quand ce phénomène arrive devant moi, j'ai des larmes aux yeux parce que rien que ça ne me permet même pas de pouvoir organiser ou préparer juste la rentrée d'un enfant. Je vous dire que c'est vraiment alarmant. Moi, je pense que ce problème de scolarité, nos dirigeants doivent les prendre à bras le corps. Pour mon cas, précisément, je dirais même essayer de tripler le salaire parce que je n'arrive pas. Je suis au bout du mur. Vraiment, c'est regrettable et je n'arrive pas. Je ne sais pas à qui me vouer, à quel sein me vouer. Je suis paniqué de moi-même. Donc, je ne sais pas. C'est pénible. De partout, en fait.
On vous comprend très, très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et justement, j'aimerais avoir, avant que l'on se quitte, le témoignage de Georges Joris Boyeka, qui est également en RDC. Georges, comment allez-vous?
Oui, je vais bien. Merci.
Merci beaucoup donc d'avoir également participé à la discussion sur le Facebook de VO Afrique. Alors, qu'auriez-vous ajouté? On vous écoute.
Oui, bon, je voulais juste ajouter une chose à tout ce qui vient d'être dit. Ce problème-là des commercialisations, tout ça, là de l'enseignement avec les écoles privées à Kinshasa ou avec l'Union démocratique du Congo, ça devient sérieux. Pour ma tête essayée, les écoles privées fonctionnent comme si rien n'était. Donc, il y a un problème d'organisation, de structuration, surtout sur le plan des Minerval. On ne sait pas quel est le prix exact qu'on doit payer, combien l'État récupère dans ce montant-là. Et les élèves, déjà, dès le premier jour, sont chassés, bien que le gouverneur parle, le ministre parle, ça vient avant. Donc, on comprend plus rien. Et deuxièmement, on pourrait même parler de ce qui étonne la rentrée scolaire ici à Kinshasa, c'est cette affaire du retour au drapeau. Ça ne va pas. Pendant que les gens cherchent à trouver des solutions idoines pour les études des enfants, on nous parle que les...
Merci beaucoup Georges, désolé pour cette coupure, on doit se quitter, c'est la fin de notre émission. Un grand merci à tous les auditeurs, à tous les Facebookers, un grand merci à Sawadogo Sayuba pour avoir participé à cette émission interactive de VOA Afrique. À très bientôt, au revoir.